Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour et bienvenue dans ce programme de Radio Okapi, financé par l'UNICEF pour les jeunes et plus jeunes. Bana Okapi rime aujourd'hui aux couleurs de la 29e conférence internationale de climat COP29 qui se tient du 11 au 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Nous accordons la parole à cette occasion spéciale aux jeunes Congolais qui participent à cette grande messe de l'environnement et du climat. Tout se passe au moment où les températures mondiales atteignent de nouveaux records. Des phénomènes météorologiques extrêmes touchent les populations du monde. Qu'attendent ce jeune Congolais qui participe à la 29e COP? Que doit attendre la population congolaise de cette nouvelle COP? Mais surtout, quels sont les enjeux de la COP29? Cette belle émission spéciale COP29 répond à ces différentes préoccupations avec des invités qui participent à la COP en direct de Bakou, en Azerbaïdjan. Sarah Soumel est à la présentation de ce magazine Bana Okapi, Pierre Diassinois et à la mise en onde, une réalisation de Gisèle Cage sous la supervision de Jean-Marc Omotoki Mofelili, 10 jeunes.
Okapi,
Commençons ce magazine par un message que lance Emmanuel Jidissa, jeune ambassadeur de l'UNICEF pour la cause climatique, présentement à Bakou, en Azerbaïdjan.
Les changements climatiques, c'est un thème qui est transversal. Ils affectent les droits des enfants, notamment les droits de vivre dans un environnement sain. Alors moi, je vais appeler tous les enfants à s'engager et même à être aussi les acteurs des changements dans la communauté, à travailler sur des campagnes, à adopter des gestes éco-responsables pour protéger notre environnement. Parce que, vous savez, il y a un adage qui dit que les plus grands changements commencent souvent par des actions qui sont portées directement par les personnes qui sont victimes de la situation. Alors nous, ici à la COP, nous sommes en train d'appeler les leaders mondiaux à trouver une place pour les enfants dans les discussions. Alors, eux aussi doivent être prêts, ils doivent se préparer, ils doivent travailler aussi au niveau national pour préparer aussi l'air à venir, parce que voilà, la planète, on est en train tous de parler du changement climatique, et on oublie qu'il y a les enfants qui doivent hériter de cette planète, et que si n'est rien, si on ne fait rien maintenant, en fait, c'est les enfants, c'est nous qui allons perdre.
Chers auditeurs et auditrices, Bana Okapi vous propose un numéro spécial sur la COP29 avec un accent particulier sur la participation des jeunes Congolais. C'est grand événement qu'est la COP29 connaît la participation de plusieurs jeunes Congolais. Pourquoi le jeune s'y intéresse et quels sont les enjeux de cette COP? Monsieur Martin Milolo, coordonnateur de la structure des jeunes Congolais pour la justice climatique et en direct de Bakou en Azerbaïdjan.
Oui, nous sommes à Bakou, en Azerbaïdjan, à cette COP. Tout d'abord, il faut comprendre que c'est une COP qui a été appelée la COP de la finance, parce qu'elle est placée sous le label de la finance climat. Les COP se succèdent, les promesses se multiplient, mais rien de concret ne se manifeste dans les décisions qui sortent de conférences des parties sur le climat. Voilà pourquoi ici, cette COP a un point particulier qui a été mis sur les finances pour qu'enfin on puisse savoir exactement quel est l'état de la question de l'ensemble des mécanismes de finances qui ont été négociés depuis la COP de 2009, en passant par la COP de 2015 où nous avons l'accord de Paris jusqu'au aux différents COP. À titre de rappel, nous avons plusieurs fonds qui ont été mis en place. D'abord, Il y a la promesse des 100 milliards de dollars qui devraient être mobilisés chaque année par les pays pollueurs pour financer l'atténuation et l'adaptation dans les pays qui subissent les impacts du changement climatique, du réchauffement climatique et qui ne sont pas responsables de ces changements. Et donc, ces 100 milliards déjà institués à la COP de Copenhague et réitérés dans la COP de Paris ne sont toujours pas disponibilisés. Il y a à la COP 26 en Grande-Bretagne qui a mis en place le mécanisme de mix de finances pour inviter aussi les privés, les sociétés privées à contribuer à prendre part dans la contribution des finances climat. Et en Égypte, à la COP 27, nous avons le fonds des pertes et dommages qui est la contribution de l'Afrique dans cette décision qui a fait que on puisse adopter ces fonds. Mais jusque-là, ce n'est toujours pas opérationnel. À la COP 28 de Dubaï, il y a quelques contributions qui n'ont été que des effets d'annonce parce que jusque-là, rien de concret n'arrive au niveau de communautés locales qui subissent de plein fouet la question du changement climatique, comme les communautés congolaises qui sont en première ligne pour la préservation et la protection des écosystèmes. Et donc, il y a toutes ces questions qui seront décidées ici. Et je voudrais finir pour dire que maintenant, selon le rapport du groupe d'études des Nations Unies sur le climat, il ne faut plus 100 milliards par année pour financer l'atténuation et l'adaptation. Il faut plutôt 1000 milliards par an pour financer l'adaptation. Parce que la crise s'intensifie et se multiplie. Donc, ce sont là les enjeux de cette COP. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait de déplacement, notamment les États-Unis, la France. Je parle là en termes de grands pays, de grandes délégations de présidents, et donc qui n'ont pas pu faire le déplacement. Mais nous sommes avec certains autres. Les négociations s'annoncent difficiles, mais il faut vraiment être en bonne position pour faire avancer ces pions. Et nous sommes là pour défendre la République démocratique du Congo et les jeunes de...
Monsieur Martin, on remarque que de plus en plus de jeunes s'intéressent à la protection de l'environnement. Pensez-vous que ce nouveau vent peut basculer les choses en termes de protection de l'environnement, justement?
Oui, mais parce que, justement, on dit souvent que les jeunes, la jeunesse, c'est l'avenir, mais l'avenir est compromis par le changement climatique. Voilà pourquoi les jeunes se mobilisent davantage pour prendre les choses en main, parce que il semble qu'il y a une léthargie du côté des institutions dans le cadre de l'action adéquate à entreprendre pour la protection de l'environnement, la protection du climat. Nous avons vu la question des blocs pétroliers qui avaient surgi pour dire que non, voilà, parce que les autres ont pollué, nous aussi on doit polluer. Mais le problème, la question, ce n'est pas si les autres ont pollué, nous aussi on pollue. Le problème, c'est que la pollution pose problème et ça nous cause problème même à nous-mêmes et aux autres. Et donc, la protection de l'environnement devient d'abord et avant tout la question de la jeunesse. Et aujourd'hui, la question embrasse plusieurs domaines. Vous avez les domaines de l'emploi. Il y a certains emplois qui disparaissent, mais il y a aussi d'autres qui naissent avec la question de la protection de l'environnement, la protection de l'écologie. Vous avez des nouvelles formes de l'entrepreneuriat qui se développent. Et donc, les jeunes ont pris conscience de cette réalité et se sont embarqués dans ces bateaux pour que plus personne ne décide à leur place sans que leur voix puisse compter. Et désormais, on est là, on est engagé pour défendre les intérêts de la jeunesse et pour défendre les intérêts de notre population.
Monsieur Martin Milolo, merci beaucoup.
Merci, madame.
Okapi, Radio Okapi.
Comme annoncé au début de ce magazine, le jeune Congolais participe à la COP 29 pour apporter haut la voix des Congolais considérés comme pays solution. Deux jeunes ambassadeurs de l'UNICEF en RDC pour la cause climatique, Ketia Passou et Emmanuel Jidissa, participent depuis Bakou en Azerbaïdjan à la COP 29. Nous les avons joints au téléphone, ils nous livrent ici leurs impressions. Alors, bonjour Ketia Passou et bonjour Emmanuel Jidissa.
Bonjour.
Bonjour.
Ketia, c'est la 40e fois que vous puissiez participer à la COP.
C'est ma 2e participation à la COP. J'ai participé à la COP 27 de Sharm el-Sheikh et à cette COP, la COP 29 de Bakou en Azerbaïdjan.
Et pour Emmanuel?
C'est ma 2e COP aussi. J'ai participé à la COP 28 de Dubaï et cette COP 29 de Bakou, Azerbaïdjan.
Pouvez-vous expliquer aux enfants congolais qui vous écoutent ce que vous faites actuellement à Bakou? Emmanuel, on commence avec vous.
Alors, à Bakou, en tant que jeune ambassadeur UNICEF, mais aussi représentant des autres enfants congolais, nous sommes là pour porter leur voix. On est enfants et on sait quels sont les besoins des enfants. On est en train de porter la voix des enfants à Bakou, mais aussi les représenter et appeler tous les dirigeants mondiaux à inclure, à mettre en fait les enfants au centre de toutes les discussions.
Ketia, pouvez-vous expliquer aux enfants qui vous écoutent pourquoi doit-on protéger l'environnement?
Moi, je pense que les questions de protection de l'environnement sont des questions qui sont automatiquement liées aux droits de l'enfant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le changement climatique impacte directement les enfants, leur santé, leur avenir, leur droit à l'éducation, par exemple, lorsqu'il y a des catastrophes telles que les inondations. Et aujourd'hui, le droit à vivre dans un environnement sain, c'est en fait nous garantir d'une manière ou d'une autre le droit de bénéficier de tous nos droits. Et c'est pour ça que c'est important de faire toujours le lien entre l'environnement et les autres thématiques, parce que les défis du climat concernent tout le monde, c'est vrai, mais les défis de climat impactent particulièrement les enfants et les jeunes. Et dans le contexte de notre pays où les jeunes et les enfants constituent plus de 60% de la population, c'est important de mettre un accent sur les défis climatiques, sur comment ça impacte les jeunes et sur comment on peut y faire face.
Alors Ketia, comment on fait pour devenir tel que vous et voyager pour défendre la cause des jeunes Congolais?
Déjà, moi, ce que je dis à toutes les personnes qui me posent cette question, c'est que l'engagement est né par un besoin de faire quelque chose de bien et d'apporter un changement dans sa communauté. Moi, je n'ai jamais fait tout ce que je fais parce que je m'attendais à voyager, faire le tour du monde et à parler des problèmes de ma société. Ça, c'est juste le résultat des efforts que j'ai fournis et de l'engagement que j'ai manifesté qui m'a permis d'aujourd'hui prendre part à des événements comme celui-ci. Le plus important, ce n'est pas de voyager. Le plus important, c'est de commencer quelque part. Et commencer quelque part, c'est dans son école, c'est dans son quartier, c'est dans sa maison, comme moi je l'ai fait. Et après, pouvoir se dire quelles actions moi je peux mener à mon niveau pour avoir de l'impact. En commençant par l'impact national, local, c'est là que tu peux réussir d'une manière ou d'une autre à t'imposer sur l'échelle internationale, mais il ne faut pas que ça devienne l'objectif final de tes actions. Il ne faut pas que tu fasses les choses pour voyager, il ne faut pas que tu fasses les choses pour venir au COP, il faut que tu fasses les choses parce que tu as envie de voir les choses changer dans ta communauté. Et ça, c'est important de le manifester. L'engagement, il vient par un désir de faire quelque chose de positif. Et c'est ce désir-là qui va t'emmener aussi loin que possible, mais ne le fais pas pour attendre quelque chose en retour. C'est important.
Vraiment, de cette COP, comment vivez-vous cette nouvelle COP parce que vous êtes à votre 2e participation? Je pose la question d'abord à Emmanuel.
Alors, c'est vrai que c'est ma 2e COP, mais cette COP, elle est beaucoup plus particulière parce qu'on parle des investissements. Et d'ailleurs, je venais de prendre part à une conférence, c'était un forum avec les jeunes et les négociateurs, où en fait, j'ai demandé en fait quel est le plan et quelle est la place des enfants dans cette lutte en fait. C'est vraiment une très belle COP. Je pense qu'on va les enfants sont aussi pris en compte. Nous sommes en train de nous battre, c'est vrai. Ketia et moi avons rencontré la première ministre de la République démocratique du Congo, la ministre de l'environnement, mais aussi la ministre déléguée de la francophonie, et nous avons justement aussi plaidé pour les enfants. Donc c'est vraiment une COP riche. Nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de prendre parole à différents événements. pour promouvoir les droits des enfants, notamment les droits de vivre dans un environnement sain et d'être protégés des effets du changement climatique. Mais aussi, il faut rappeler que voilà, les enfants, ils doivent maintenant être ils doivent maintenant avoir, en fait, ils doivent savoir comment faire face aux effets du changement climatique, parce qu'on parlait de l'adaptation. Et pour s'adapter, les enfants, ils doivent savoir comment s'adapter, ils doivent savoir, ils doivent être capables, en fait, de faire face aux effets du changement climatique. Et ça, nous n'oublions pas, nous sommes en train de marteler là-dessus sur, à toutes les autorités qu'on rencontre, les dirigeants mondiaux et les partis qui prennent part à cette COP.
Alors, Kétia, vous êtes sûrement parti à la COP 29 avec beaucoup d'attentes. Pouvons-nous savoir quelles sont vos attentes, Kétia?
Moi, la première de mes attentes, ce serait de se dire, OK, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la COP, lorsqu'on parle des décisions qui doivent être prises, qu'il y ait un focus qui soit fait sur les enfants, qu'il y ait un focus qui soit fait sur les jeunes. Ça, c'est ma première attente. C'est vraiment de me dire, en fait, que après cette COP, toutes les décisions qui seront prises, les enfants seront au centre de ces décisions. Les enfants doivent être au centre des négociations. Et c'est là l'une des attentes. Et c'est là l'une des attentes que j'ai de cette COP aussi. En dehors du fait que nous attendons aussi que les financements soient effectifs pour l'adaptation et en même temps que les financements soient effectifs pour les pays marginalisés et qui vivent les effets du changement climatique sans en être les responsables.
Kétia, penses-tu que tu rentreras avec satisfaction de cette COP?
Vous savez, si tout dépendait de moi, oui. Et je le pense, je le crois. Aujourd'hui, moi, je fais ce qui est en mon pouvoir, mais vous savez, le problème, il dépasse seulement mon niveau, le niveau UNICEF, d'Emmanuel et de moi en tant qu'ambassadeur. C'est un problème qui est global et il faut qu'une volonté soit manifestée à tous les niveaux. Mais moi, je continue d'y croire. Si on est là, c'est pas pour rien. On va continuer de porter le message. Et on espère qu'à la COP 30, qui est la COP des enfants, il y aura énormément de changements et d'impacts positifs et que, en fait, notre pays et les jeunes de notre pays ainsi que les enfants pourront bénéficier de ce qu'ils méritent réellement.
Alors, Emmanuel, pouvez-vous nous parler aussi de vos attentes?
Alors, vous savez, cette COP, elle est appelée COP des investissements. Et moi, personnellement, je m'attends à ce que les investissements soient en fait effectifs. Enfin, qu'on puisse investir dans les secteurs des enfants, que en fait les enfants jouissent de leurs droits comme il est faut, parce que vous savez, par exemple, chez nous il y a eu des inondations, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, les enfants sont à la maison, les enfants ont perdu leurs parents, et en fait ces droits de vivre dans un monde meilleur, c'est fait un droit reconnu. Et moi, mes attentes, c'est de voir en fait les investissements passer en fait pour que les enfants s'adaptent. C'est de voir chaque enfant vivre aéré dans sa communauté. C'est de voir chaque enfant en fait bénéficier de tous ses droits. Aussi, c'est de voir les enfants autour des discussions qui sont dans les processus des prises des décisions. On a lancé une campagne où on disait, en fait, où on dit à la COP 29, tenez compte des enfants dans la prise des décisions. Et c'est très important, voilà, que nous puissions, en fait, arriver à avoir des très bons résultats pour cette campagne, où on voit les enfants, ils parlent, non seulement qu'ils parlent, mais aussi les adultes leur écoutent. On a la COP 30 qui est la COP des enfants et nous serons très heureux de voir les enfants gérer, parce qu'ils sont en fait les futures générations, ils seront les futurs ministres et ils doivent savoir comment gérer, et nous serons très heureux de voir les enfants acquérir des compétences, voilà, que les enfants aient des connaissances sur les changements climatiques, comment faire et comment s'y prendre. Donc voilà, en fait, en quelques mots, mes attentes. Et je rappelle que ce n'est pas du tout impossible. Donc c'est possible, c'est faisable si tous nous nous engageons.
Bien sûr. Avez-vous préparé un plaidoyer?
Oui. Je pense qu'on a introduit ça plutôt en disant que quand on est là, on a un message qu'on fait passer, on a un message de plaidoyer, on a des recommandations qui ont été mises avec l'ensemble des enfants reporters dans toutes les provinces de la RDC. C'est ce qui constitue une partie de notre plaidoyer aussi. Sans oublier le rappel des engagements qui ont été pris, qu'on est en train d'essayer de pousser aussi. Et donc c'est tout ça qui constitue notre message ici, et c'est tout ça qui constitue même notre présence ici à la COP 29.
Alors, Kétia Passou et Emmanuel Jidissa, merci beaucoup pour votre participation et de toujours emmener plus haut la voix de jeunes Congolais.
Merci.
Merci à vous et bon courage à tous les jeunes qui décident eux aussi de nous rejoindre dans la lutte et de s'engager.
Merci beaucoup. Bienvenue dans cette seconde partie du magazine Bana Okapi, un programme des jeunes et plus jeunes qui vous parle de la participation de jeunes congolais à la COP 29. Ils sont là pour représenter le pays et pourquoi pas porter haut la voix de toute la République par des plaidoyers, mais aussi faire des propositions pour apporter un changement positif. La 29e édition de la Conférence internationale sur le climat, COP29, est principalement axée sur le financement. Une façon de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Il est surtout question de protéger les vies et doter les moyens de substances contre l'aggravation des effets de changement climatique. Dans cette seconde partie, vous suivrez d'autres jeunes, des défenseurs de l'environnement, qui participent pour certains en Azerbaïdjan et d'autres en ligne. Sarah Soumel est à la présentation de ce magazine, mise en onde de Pierre Diassinois, une réalisation de Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele Dijano. Ce magazine est coproduit par Plamedim Biavanga, Grasson Wezolo, Rachel Kessé, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salomou, Étienne Lissoumbo, Guylaine Kassassia et Stanislas Diomi. Nous lançons cette seconde partie. Nous allons cette fois-ci écouter un message de Kétia Passo, jeune ambassadrice de l'UNICEF pour la cause climatique. Ce message a été lancé directement à Bakou, en Azerbaïdjan, pour tous les enfants congolais.
Vous savez, personne ne va mieux porter notre combat que nous-mêmes. Et personne ne va mieux représenter les jeunes et les enfants que les jeunes et les enfants eux-mêmes. Si aujourd'hui notre combat est que les recommandations des enfants soient mises en exécution, il faut que des enfants soient présents. C'est un droit qui nous est reconnu même dans la Convention relative aux droits de l'enfant, c'est de se dire, lorsqu'on parle des enfants et des jeunes, il faut qu'il y ait des enfants et des jeunes. Et dans le contexte de notre pays, il fallait que cela se fasse, et c'est une première aujourd'hui qu'avec Emmanuel, on ait même l'accès à voir les négociations. C'est parce qu'en fait, on est en train de pouvoir atteindre cette objectif d'inclusion et de participation effective des enfants et des jeunes lors des prises de décisions. Nous, notre rôle, c'est de voir ce qui se passe et à tout moment de dire non, les enfants, ils veulent ça. Quand est-ce que vous prenez en compte ce que nous vous avons demandé ?
Radio Kati, le souffle du Congo.
Spécial COP 29. Plusieurs jeunes Congolais ont participé à cette COP pour porter haut la voix de la RDC. D'autres jeunes Congolais défenseurs de l'environnement, en dehors de ceux qu'on vient d'écouter, ont également participé à la Conférence internationale sur le climat, autrement appelée COP 29, pour plaider en faveur de la RDC. Nous recevons l'un d'entre eux, Bertin Bouya Kilabi, coordonnateur du réseau Climat Jeunesse, un réseau créé à la COP 28 à Dubaï, réunissant plus de 1400 jeunes de différents pays francophones. Bonjour Monsieur Bertin Bouya.
Bonjour Madame.
Alors Monsieur Bertin, vous avez participé à la COP 29 aujourd'hui. Quel a été votre message pour cette COP?
Merci Madame pour ce privilège que vous m'avez donné. Le message a été lancé. C'est d'abord dans les comptes de la jeunesse congolaise et dans les comptes du réseau climat jeunesse en général pour relayer un peu ce message de cri d'alarme que le changement climatique est une réalité et ça affecte beaucoup de personnes à travers le monde, mais surtout aussi sur les continents africains. D'une part, il y a des sécheresses qui ne font qu'augmenter, notamment dans les côtés de l'Afrique sahélienne. Mais d'autre part, il y a aussi des grandes pluies diluviennes qui ne font que tomber, qui sont en soi des conséquences du changement climatique. Mais particulièrement pour mon pays, parce que j'ai plaidé le cas de la RDC en tant que pays solution au changement climatique, avec ses forêts, ses tourbières, ses eaux douces, ces minéraux stratégiques, je parle du lithium, des cobalt, des coltan dans la transition écologique, mais qui pourtant est parmi les pays les plus menacés par les effets du changement climatique. Je parlais de la hausse de la chaleur qui perturbe vraiment les problèmes de les calendriers agricoles et qui impacte très négativement les moyens de subsistance des communautés des agriculteurs. Je parlais de ces pluies diluviennes qui tombent et qui causent beaucoup d'inondations au niveau de notre pays. Il y a plusieurs provinces qui sont affectées. En commençant par Kinshasa, la capitale, nous vivons des inondations. C'est vrai qu'il y a des conséquences, notamment la gestion des déchets, etc. Mais les régimes de pluie qui tombent actuellement sont différents de ce qui tombait il y a de cela des décennies passées. Donc il y a cette accentuation de pluie du fait du changement climatique. Il y a aussi des provinces comme dans le nord ou Bangui où des eaux ont débordé. Il y a plus de des milliers de personnes qui sont affectées avec leurs familles, avec ces conditions d'inondation qui peuvent être des climats favorables, de plusieurs maladies. Et donc, il y a ces problèmes-là. Et je plaidais pour que, quand on parle du fond, des pertes et des dommages liés au changement climatique, qu'on pense aussi à la République démocratique du Congo, qui joue d'ailleurs un grand rôle dans la séquestration des carbone, mais qui est menacée. Voté ou proposé à Dubaï, à la COP28, sont affectés et parmi les pays qui doivent les recevoir, normalement, notre pays devrait le recevoir parce que, je viens de le dire ici, nous sommes vraiment beaucoup touchés et notre communauté congolaise est vulnérable au changement climatique.
Est-ce que les Congolais peuvent espérer en cette COP recevoir quelque chose?
Espérer, oui, l'espoir fait vivre, mais on doit espérer avec... beaucoup de stratégies aussi, parce que on doit le dire hein, de manière assez claire, il n'y a pas un seul pays au monde qui n'a l'argent que pour l'affecter à l'histoire climatique. C'est un combat à l'interne, c'est pourquoi où il y a beaucoup de promesses, il n'y a pas de réalisation. L'espoir des Congolais, c'est que nous sommes dans les concrets. Même si les mondes jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à nous reconnaître comme tels ou à affecter des moyens qui sont équivalents à notre capacité à stabiliser le climat mondial. Mais les Congolais, dans le concret, nous avons des forêts qui sont là. Et donc, nous pouvons espérer, parce que la logique, c'est celle-là. Il y a d'une part les pollueurs, il y a d'autre part les conservateurs. Et les pollueurs devraient payer. Et cette paye devrait aller chez les conservateurs. Et donc, dans cette logique, nous pouvons espérer. Mais connaissant que nous faisons face à un système financier des prédateurs, et donc c'est aussi l'occasion pour le gouvernement congolais d'ouvrir l'œil, de savoir que la lutte contre les changements climatiques n'est pas que la cause du Congolais lui-même. C'est pourquoi nous devons à l'interne définir des politiques qui vont protéger l'environnement, mais qui vont aussi promouvoir le développement local. C'est en ce moment voilà qu'il faut voir comment exploiter certaines ressources de notre pays. Je ne parle pas que de minerais, nous avons plusieurs des ressources de gaz, de pétrole, etc., mais en respectant les équilibres environnementaux pour que ce financement local arrive à améliorer les conditions de vie des communautés, parce qu'on a comme l'impression que les promesses qui sont faites à l'extérieur ne produisent pas des flux concrets et la qualité de vie des Congolais n'est pas améliorée. Donc, d'une part, on doit espérer aux dividendes qui peuvent provenir de la COP, mais d'autre part, nous prions pour définir un modèle de développement interne qui met en avant-plan la protection de l'environnement, mais surtout qui se base sur la résolution des problèmes des Congolais. Sinon, on continuerait de crier pays solution, avec vente affamée. Ça n'aura pas de cohérence.
Alors, que doit faire notre pays pour garder sa place de premier poumon vert au monde?
Ce qu'il faut faire, c'est que le pays est premier poumon du monde à cause de ses forêts, de ses tourbières. Mais il y a une chose, un dilemme d'ailleurs. Les poumons ne peuvent être conservés que lorsque les conservateurs sont eux aussi conservés. Dans quel sens? Ils sont conservés dans le sens où ils ont droit à la nourriture, ils ont droit aux soins de santé, ils ont droit à l'école, ils ont droit à tous les besoins primaires que tout le monde devait avoir. Sinon, cette forêt, ces poumons seraient menacés. La seule façon qui peut faire à ce que notre pays maintienne sa position du premier poumon du monde, c'est le fait qu'il y ait la définition des politiques qui vont, au travers de ce poumon, donner de l'emploi aux Congolais, donner à manger aux Congolais, donner des conditions meilleures de vie aux Congolais. C'est pourquoi nous disons que cela ne pourrait être possible que lorsque, non seulement le gouvernement congolais, mais que la communauté internationale a participé en termes de partage équitable des dividendes liés à aux services écosystémiques que les pays rendent par rapport au climat mondial. Mais à l'interne, ce qu'il faut faire, c'est la définition des politiques
qui vont concourir à l'exploitation de ressources naturelles. Je parle même des ressources forestières, ça peut être de bois et d'autres minéraux, tout en mettant en place un plan de restauration de ces forêts. Parce qu'il y a la possibilité d'exploiter sa forêt, mais de la régénérer. D'ailleurs, dans la théorie des séquestrations de carbone, les forêts vieilles ne séquestrent pas autant de carbone. Ça peut être, l'avantage, ça peut être dans ces forêts-là, il y a des tourbières, mais la vision, c'est celle de régénérer les forêts. Et la régénération peut faire objet de l'exploitation rationnelle de ressources tout en ayant un plan de reboisement. Et donc, c'est ce que notre pays peut faire, mettre en place une politique telle que quand le Congolais va prélever les bois pour le charbon des bois, qu'il y ait une possibilité de reboiser sur cela. Parce que maintenant, il y a le développement d'un cadre multisectoriel sur le bois à énergie, une initiative du ministère de l'Environnement qui est en train déjà de s'étendre. C'est une bonne initiative où on dit que non, la production du charbon des bois est l'un des moteurs de déforestation en République démocratique du Congo. Pour maintenir notre vision de pays solution et de leader du climat mondial, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait mettre en place un système d'accès au bois énergie qui soit soutenable, qui soit durable, dans le sens où les Congolais peuvent continuer à avoir ces bois énergie en attendant qu'il y ait des énergies renouvelables dans la cuisson, mais tout en protégeant la forêt. Il faut faire à ce que les gens qui sont dans la carbonisation, qui les font juste pour des moyens de subsistance, trouvent des emplois dans d'autres domaines qui peuvent provenir des subventions liées au climat afin que ces charbonniers abandonnent le travail de destruction de la forêt vers des métiers qui protègent la forêt. Donc, il faut un système compensatoire, sinon ce que font les Congolais pour détruire la forêt, ce sont des moyens de subsistance. On ne va pas se les interdire, ou sinon ne coupez pas la forêt pour le bois, ne coupez pas la forêt pour le charbon, ne coupez pas pour ceci, parce que c'est tout ce qu'ils ont comme ressources. Mais la seule façon de faire à ce que ces Congolais continuent d'exploiter leur forêt ou continuent de bien vivre, tout en maintenant leur statut de pays solution, leur statut de conservateur de la forêt, c'est créer des activités alternatives à leur source de revenus. Voilà.
Alors, Monsieur Bertin, pour finir, quelle est votre appréciation de cette COP 29?
L'appréciation de cette COP, en premier, dans le COP, ça traduit un engagement de pays à faire face à cette problématique qui est réelle, les changements climatiques. Voir le pays mobilisé, c'est vrai qu'on peut tout dire, mais il y a un engagement dégagé dans cette mobilisation. Pour moi, en tant que militant, en tant que jeune du réseau Climat Jeunesse, ça me motive. Deuxième point de vue par rapport à cela, c'est le fait que de cette COP peut provenir des résolutions qui vont changer notre style de vie. Parce que maintenant, on parle de la transition vers les énergies qui soient plus propres. Et ces décisions sont prises pendant ce moment où les dirigeants du monde se réunissent pour réfléchir autour des questions liées au climat. Donc, nous espérons qu'au travers de cette mobilisation de pays et au travers de ces assises, vont naître des résolutions qui vont améliorer les conditions de vie en termes de la conservation de la nature, en termes de la transition écologique, en termes de création d'emplois, en termes de transfert de technologies pour le pays en développement comme le nôtre. Et donc, j'ai encore foi, je crois que de cette COP va sortir beaucoup de résolutions qui vont nous permettre à poser des pas vers un avenir meilleur qui est voulu par tous.
Alors, Monsieur Bertin Mbuya Kilabi, je rappelle que vous êtes coordonnateur du réseau Climat Jeunesse. Nous vous disons merci pour votre participation.
Nous vous remercions, madame. C'est moi qui vous remercie pour la considération.
Pour finir, nous recevons M. Faustin Nieboni, environnementaliste et directeur exécutif de l'organisation ICED basée à Goma. Une organisation environnementale qui travaille sur l'intégration des jeunes dans la lutte contre les effets du changement climatique. Bonjour Monsieur Faustin Nieboni, vous participez pour une énième fois à la COP, cette fois-ci à la COP 29.
Oui, effectivement.
Alors, quelles sont vos impressions de cette COP?
Oui, les premières impressions par rapport aux objectifs qui visent à diminuer le réchauffement climatique au moins d'un demi degré Celsius, c'est-à-dire pour y arriver, il faut diminuer combustibles fossiles. Par rapport à cet objectif, je pense que la COP est mal partie parce que les pays qui accueillent la COP, c'est parmi les pays les grands producteurs des énergies fossiles. Et si vous avez suivi le président d'Azerbaïdjan, il a dit pour eux, pas question de leur dire de ne pas exploiter leurs sources. Parce que c'est au même titre que l'or et les autres matières premières. Alors pour eux, c'est Dieu qui leur a donné ces ressources pétrolières et ils doivent en utiliser bien sûr sagement. Donc vis-à-vis des objectifs, voyez les pays qui accueillent la COP, bon, ne s'inscrivent même pas dans cette logique. Donc les objectifs ne seront pas vraiment atteints à 100%. C'est déjà une inquiétude même par rapport à la COP.
Pouvons-nous espérer que quelque chose puisse sortir de cette COP quand on entend ce genre de raisonnement?
Pas vraiment. En tout cas, on n'attend pas beaucoup de cette COP parce que l'idéal, la transition énergétique, abandonner les énergies fossiles aux énergies renouvelables. Mais les pays organisateurs, vous voyez la COP 28, c'était toujours un pays qui est un grand producteur. Et la COP 29, c'est encore un pays, un grand producteur. Alors, que quelque part, ça, il n'y a pas vraiment... Donc, la COP, ce que nous comprenons maintenant est que c'est au-delà de la question du réchauffement climatique. La COP est devenu un enjeu géopolitique. Et ce sont ces enjeux géopolitiques qui bloquent même les aspects liés au climat. Et donc, vous voyez que ça devient tellement complexe que arriver aux objectifs, l'abandon des énergies fossiles devient tellement compliqué à cause des enjeux géopolitiques.
Qu'avez-vous espéré de cette COP?
Oui, on devrait espérer qu'il y ait des engagements pour abandonner les fossiles, qu'il y ait des engagements pour qu'il y ait des financements climatiques, qu'il y ait des engagements pour les pertes d'État. Jusque-là, ce n'est pas encore ressorti. Peut-être nous attendons à la fin qu'il y aura des communiqués dans ce sens-là, mais jusque-là, il n'y en a pas. Et même sur les pertes et dommages, en fait, ces pertes et dommages, le financement des pertes et dommages, frais de diligence. Parce que quand il y a catastrophe liée au changement climatique, il ne faut pas encore un processus pour accéder au financement. Ça devrait être les fonds diligence. Mais jusque-là, les COP n'ont pas encore mis cet aspect-là dans les urgences. Peut-être aussi, on attend à la fin qu'on puisse parler de cela. Donc, c'est ce que nous attendons à la fin. Abandonner les fossiles progressivement, s'inscrire dans la transition énergétique, qui est des fonds pour l'adaptation et que les fonds de poste et dommages soient inscrits dans les fonds d'urgence. Donc c'est ce que nous attendons. Peut-être à la fin, il y aura des améliorations par rapport à ça.
Parlons de financement. Pensez-vous que la RDC pourra bénéficier d'un financement pour le climat?
Oui, c'est question de faire un bon plaidoyer. Puisque pour le moment, on a changé la logique parce que avant, on donnait seulement des fonds pour les pays et les pays devraient chaque fois voir comment utiliser, soit dans l'adaptation, soit dans les pertes et dommages. Ce n'est plus question de donner les fonds, mais c'est question de présenter un projet. Alors, il est question maintenant que la RDC présente des beaux projets par rapport à ça. Donc, la RDC a du potentiel, comme on le dit, c'est une pays solution. Mais la RDC doit transformer ce potentiel-là en projet. Et c'est là où la RDC doit faire un grand plaidoyer en termes de projet. Et là, maintenant, la RDC peut accéder à ces fonds-là.
Vous, étant que défenseur de l'environnement, avez-vous des plaidoyers ou sinon des plans ou stratégies à proposer pour pouvoir accéder au financement?
Oui. Par exemple, pour les fonds de pertes et dommages, on posait au pays ceci. Parce que, comme jusque-là, ces fonds-là ne sont pas les fonds d'urgence, une catastrophe liée au changement climatique, on ne va pas accéder finalement ou facilement à ces fonds. Il faudrait que la RDC ait un plan ou bien des fonds pour gérer les catastrophes liées au climat. Alors, une fois qu'il y ait des catastrophes liées au climat, si les pays arrivent à financer ça, maintenant le pays va présenter ou il a déjà préfinancé, il a déjà financé ça, maintenant il va réclamer l'argent. Et là, il aura déjà sauvé des vies et puis il va réclamer l'argent après. Sinon, dans le cas contraire, on va regarder les vies disparaître comme ça suite au changement climatique sans rien faire et finalement même on ne va pas accéder au fond. Donc ça, la stratégie que les fonds dirigeants se disent aux catastrophes, une fois accompli ce projet, maintenant il peut présenter ça comme une dette qu'on peut lui rembourser et là, le processus peut être long, mais finalement, il peut accéder à ces fonds-là.
Avez-vous un message à lancer au peuple congolais ou sinon aux organisateurs de la COP sur cette COP 29?
Oui, c'est d'abord aux organisateurs que les COP ne soient pas seulement un lieu où on se retrouve. Parce qu'il y a les objectifs, il y a au moins trois objectifs qu'on vient pour la COP. On vient soit négocier, on vient apprendre et où on vient aussi chercher des partenariats. Or, le premier objectif, c'est négocier. Disons que les enjeux géopolitiques ne puissent pas mettre en cause les vies humaines qui sont en train de tomber à cause du changement climatique. Donc, que les organisateurs puissent chaque fois penser aux vies humaines que de voir les enjeux géopolitiques. Et aussi les choix même du lieu de la COP est aussi important. Mm-hmm. Qu'on puisse chaque fois chercher quand même des pays qui se sont déjà engagés dans ce processus de la transition énergétique. Pas vraiment toujours les pays qui sont des grands pollueurs. Ça, c'est un message que nous voulons lancer par rapport aux organisateurs. Par rapport aux Congolais, c'est de savoir que c'est vrai, nous sommes pays solution. Vraiment, nous sommes un pays solution, mais nous devons savoir comment transformer les potentiels en réalité, faire un beau plaidoyer pour qu'effectivement nous soyons un pays solution et que les Congolais, nous puissions vraiment bénéficier de cette position géostratégique due à la lutte contre les changements climatiques.
Monsieur Faustin Niebone, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, Madame la journaliste.
Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de votre magazine Bana Okapi d'aujourd'hui. Un magazine spécial aux couleurs de la conférence internationale sur le climat COP29. Nous avons évoqué la participation de jeunes Congolais à la conférence internationale sur le climat COP29. Leurs attentes, leurs propositions et plaidoyers en faveur de la communauté congolaise et enfants victimes de changements climatiques. Si vous avez manqué une partie de ce magazine, vous pouvez réécouter son intégralité sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net ou sur la page Facebook Bana Okapi. Toute l'équipe était heureuse de vous proposer ce magazine. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement sur la même fréquence et à la même heure.